Bonsoir. Pourquoi enseigner aussi l'histoire mondiale? Dans cette deuxième table ronde, nous allons passer du comment au pourquoi, car au vu des récentes polémiques, il n'apparaît pas si évident d'enseigner ce que les universitaires appellent au choix histoire globale, histoire mondiale, histoire connectée. Et il y a d'autres termes également qu'on peut utiliser, on en parlera dans cette table ronde, chacun de ces termes étant d'ailleurs fermement maintenu à distance du voisin pour maintenir justement sa singularité. Pourquoi enseigner, entre parenthèses aussi, vous noterez les parenthèses qui fleurent bon les articles savants des années 70 et 80, pourquoi enseigner aussi l'histoire mondiale? En quoi ce changement d'échelle du national au global est-il nécessaire aux élèves? Ne pourrait-on se contenter au collège d'établir un socle solide de connaissances de l'histoire nationale déjà? Est-ce céder à une mode ou est-ce céder à la pression de la recherche de pointe que de mettre ainsi au programme la mondialisation de l'histoire en cours et tout autre sujet lié à celui-ci? C'est ce que nous allons voir avec Christian Grattalou, il est géographe, professeur à Paris 7, auteur entre autres de « Faut-il penser autrement l'histoire du monde ?» et tout récemment d'une introduction à la géohistoire, les deux livres étant chez Armand Collin. Caroline Douqui est maître de conférence à Paris 8. Elle est en histoire contemporaine, elle est spécialiste de l'histoire des migrations internationales au 19e et 20e siècle. Et elle avait co-dirigé avec Philippe Minard en 2007 le numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine, titré « Histoire globale, histoire connectée, un changement d'historiographie, de régime historiographique, je crois.
Un changement d'échelle.
D'échelle historiographique, justement.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation. C'est important, le point d'interrogation. C'est comme les parenthèses. Jocelyne Daclia, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est spécialiste de l'islam méditerranéen. Elle a co-dirigé Les musulmans dans l'histoire de l'Europe chez Albin Michel. Nous avons également avec nous Franck Collard. Il est professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense et vice-président de la PAG, l'association des professeurs d'histoire géographie, et représentant également de la Société des historiens médiévistes. Et Vincent Capdepuis est avec nous également. Il est géohistorien, professeur au lycée Ambroise Vollard de Saint-Pierre à La Réunion et co-auteur du blog Histoire globale. Enfin, Antonio González est également avec nous. Il est professeur d'histoire de l'Antiquité à l'Université de Franche-Comté et président de la Société des professeurs d'histoire ancienne à l'Université La Sopho. C'est comme ça qu'on prononce ?
Exactement.
La Sopho. Voilà. Alors, nous allons commencer avec, peut-être avec vous. On a déploré dans la première table ronde le fait que la totalité ou presque du débat a été pris par les historiens. On va commencer par un géographe, en la personne de quelqu'un qui se dit d'ailleurs géographe, Christian Grattalou. Il a travaillé sur les lieux d'histoire, il a évoqué la question de l'histoire et de la géohistoire avec beaucoup de ses collègues, mais il se dit bien géographe. Alors cette question de changement d'échelle, de l'enseignement de l'histoire mondiale, vous paraît-elle une question justifiée dans le débat actuel, Christian Grattalou?
Oh oui, parce que nous sommes particulièrement dans le monde aujourd'hui et que on peut pas l'oublier, quoique certains le souhaitent, essayer de le tenir à distance. Alors, je voudrais faire un tout petit préambule, c'est-à-dire, je suis pas sûr d'être légitime, non pas parce que je suis géographe, bien au contraire, mais parce que je suis universitaire. C'est pas parce que je suis pas enseignant du secondaire, parce que j'ai beaucoup formé et j'ai moi-même beaucoup enseigné dans le secondaire, la question n'est pas là, mais je pense que c'est une question collective de toute la société française et que on n'a pas à se l'approprier particulièrement. Et vous allez voir que pour l'histoire, c'est beaucoup plus important que pour n'importe quelle autre discipline. La première, c'est que je suis gêné d'intervenir dans un débat disciplinaire, dans la mesure où je pense, sincèrement, que le problème de l'école pour tous, en particulier des cycles 2 à 4 qui sont notre objet, sont une question qui, celle qui concerne tous les élèves, c'est une question qu'on a un peu trop tendance à tirer pour, dans la corporation professionnelle des enseignants du secondaire, en pensant essentiellement à ce pourquoi, au fond, ils sont bien formés et recrutés, c'est-à-dire les premières et terminales des voies générales. Au total, un tiers seulement d'une classe d'âge. Et il ne faut pas oublier que si on parle de crise du collège, c'est plutôt en pensant aux 200 000 élèves qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Ce n'est pas ceux qui vont aller en voie générale, quelle que soit la baisse du niveau, comme on dit, qui avait été évoquée ce matin. Alors, de ce point de vue-là, j'ai tendance à penser que l'universitaire historien, alors là, je suis bon pour le goudron et les plumes, surtout entre deux universitaires historiens, ce sont les moins bien placés pour parler de la discipline scolaire, histoire-géographie. Tout simplement parce que leur problème, c'est que leur seul vrai débouché professionnel majoritaire et identifié, c'est le CAPES, c'est l'enseignement secondaire, éventuellement élémentaire et PLP, mais ça, le plus souvent, ils ignorent. Donc, vous avez là quelque chose qui pose problème, c'est qu'on a tendance à vouloir piloter les programmes, que ce soit ceux des concours ou ceux des programmes scolaires qu'on évoque, en fonction de ce que l'on a envie de faire dans l'université et des types de recherches que l'on a envie de faire. Or, parce que si vous parliez, quand Michel Lussault fera le même exercice avec des physiciens, des matheux, etc., eux, la majorité des universitaires ont de la recherche en maths et en physique ou en biologie, enfin, c'est leur problème, c'est pas l'enseignement secondaire, enfin, c'est un problème marginal. Ça ne concerne que très très peu de gens, au total, dans l'université. Inversement, pour l'histoire, c'est un problème existentiel, parce que ça conditionne les étudiants, donc les postes, etc.
Et pour la géographie, non ?
Pas du tout. Et justement, j'en parle. C'est là où je suis pratique d'un géo, parce que nous, depuis 30 ans, nos étudiants de géographie, on a préparé au CAPES ensemble, enfin les à Reims, nos étudiants en géographie ne deviennent plus enseignants. Régulièrement, on dit c'est 10%, mais non, c'est beaucoup moins. Hein, si vous prenez les candidats au CAPES, c'est presque pratiquement plus. Les étudiants en géographie, sauf dans quelques universités ringardes, ne deviennent pas, ou sauf quelques passionnés, ça existe. Ce qui pose d'ailleurs pour notre discipline un énorme problème. Donc, y compris quand il s'agit du monde. Hein. Donc, voilà, je tenais à le dire. Il faut suspecter tout discours d'universitaire historien d'être partie prenante
dans
le débat.
Bien,
voilà. Voilà. Bon. Le géographe, au fond, c'est moins grave parce que parle de ce qui le concerne moins. Voilà. Néanmoins, ce qui me concerne en tant que géographe, c'est le monde. Parce que je vous rappelle qu'on a de l'histoire, de la géographie générale. Il n'y a pas d'histoire générale. Et que là, on a l'habitude de se confronter au planisphère. C'est une échelle qui est présente dès l'école élémentaire, hein, d'ailleurs. Et que la pensée du monde, l'image du monde, la représentation du monde, eh ben oui, ça c'est un truc qui nous concerne directement. Donc de ce fait, ça a une genèse. Et voilà, on y est dans cette histoire. Donc il me semble que rien que cela marginalise ce que, plutôt que le roman national, j'aime mieux employer une expression de Sanjay Subramanian, c'est dans sa conférence inaugurale au Collège de France, qui sont les histoires égoïstes. Ça me semble effectivement quelque chose qui me semble plus poser problème, y compris le roman européen sur lequel on a beaucoup fondé l'enseignement secondaire par rapport au roman national qui était celui d'une école élémentaire ancienne. Alors de ce point de vue-là, être dans le monde, eh bien, je crois que c'est absolument indispensable. On n'y échappera pas, parce que, pour citer une phrase que je cite souvent d'un ami commun à Michel Lussault et moi, Jacques Lévy, le monde n'a pas d'ennemi, on peut pas se construire contre l'ennemi héréditaire, dans les croisades ou ce que vous voulez, contre des martiens qui n'existent pas, mais le monde a de sacrés problèmes. Et ça, on n'y échappera pas. Donc, il faut absolument penser à une pensée à l'échelle, non pas seulement du monde, mais je vais faire très big history pour ceux qui s'intéressent à ces différentes déclinaisons de l'histoire.
Allez-y, parce que big history, tous les auditeurs qui
voilà,
vous écoutez ne connaissent pas.
C'est une histoire qui tient compte aussi de l'histoire naturelle. Eh bien, effectivement, je pense qu'on a besoin de penser, de former à une réflexion où l'histoire commence, ben, je dis pas au Big Bang, ça c'est le problème de la SVT, mais de penser au moins au néolithique. Tous les débats sur l'anthropocène aujourd'hui nous concernent directement, y compris d'ailleurs, ce qui devrait intéresser les historiens, dans les questions de chronologie, hein, qui relèvent des commissions de stratigraphie, mais je ne veux pas développer maintenant. Eh bien, vous avez là quelque chose qui est essentiel. Pensez à l'usage de la planète Terre, à sa consommation, à ce qu'on en a prélevé, aux traces qu'on y laisse. Je dis pas que c'est mal. Hein, moi, je suis pas du tout pour un retour au paléolithique. Hein, c'est pas ça. Mais il s'agit de voir ces problèmes de fond. Et c'est pas l'évoquer de temps en temps. Ah, et le réserver d'ailleurs à la géo, hein, et pas à l'histoire. C'est un problème historique fondamental. Et de ce fait, j'aurais au moins un unique point avec lequel j'étais en accord avec Pierre Nora ce matin. Le fait qu'il faut penser à la démographie. C'est-à-dire le nombre des hommes. Alors, 500 000 d'hommes au XVIe siècle, 1 milliard au XIXe, 2 milliards au début du XXe, etc. Vous connaissez tout ça. On le dit de temps en temps. Puis on l'oublie. C'est comme le planisphère qu'on affiche et puis qu'on oublie. Eh bien, là, vous avez quelque chose d'absolument essentiel. Et je pense que ça doit être une base continue dans l'enseignement pour penser progressivement l'humanité sur Terre. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse sérieusement y échapper. Alors, si on pense à ce contexte, moi, je propose de prendre sérieusement la fonction principale qu'a l'enseignement de géographie, sans doute pour beaucoup d'entre vous, et qui a été évoquée ce matin par un enseignant de collège, c'est d'utiliser les cours de géographie pour faire de l'histoire. Moi, je suis le seul à pouvoir le dire ici. Hein. Je veux dire par là, je propose de prendre au sérieux le trait d'union entre histoire et géographie et de faire un seul programme. Un seul programme d'histoire-géographie.
Ah, mais encore plus radical que, voilà. que les radicaux.
C'est-à-dire que je pense que la meilleure géographie, c'est effectivement de se demander où sont les choses dont on parle, les montrer sur des cartes, y réfléchir, penser en termes, certes, pour un mot que je n'utiliserai pas par ailleurs, mais que je vais reprendre, puisqu'il était l'implicite de bien des propos de ce matin, l'identité. Et l'identité, pour le géographe, ça s'appelle un territoire. La notion de territoire, ça me semble quelque chose à constamment construire, qu'il soit local, qu'il soit plus global, qu'il soit mondial, car l'humanité a un territoire, ça s'appelle la Terre. De ce point de vue-là, effectivement, prendre ensemble et réfléchir ensemble, ça évitera de se demander sur ces histoires de découpage et d'être parfois un peu schizophrène entre l'histoire et la géographie, et de vraiment réfléchir globalement à des questions qui sont d'échelle mondiale, y compris d'ailleurs, ce qui est mon fond de commerce au départ, la cartographie, c'est-à-dire les représentations, l'image et tous les implicites mentaux que cela suppose qu'il y a dans la pensée et la représentation du monde.
Ça veut donc dire, Christian Gratalou, non seulement faire sauter la barrière entre histoire et géographie, si elle existe encore, mais entre histoire, géographie et sciences naturelles, entre histoire, géographie...
Ben, c'est cohérent avec ce que je disais de l'attaque du disciplinaire par lequel j'ai commencé, hein, en disant... En défendant, n'oubliez pas qu'un élève de 6e a entre 8 et 10 enseignants différents, que ça pose un énorme problème. Et entre autres que chacun se défausse en disant je suis pas un éducateur, le fait que, alors je dis pas même pour le prof d'histoire qui a affaire à des élèves qui comprennent pas ce qu'est un chiffre négatif, ce qui fait que compter avant notre ère c'est un problème, mais indépendamment de ce détail, simplement pas maîtriser la lecture, l'écriture, enfin d'avoir des problèmes de socialisation, bon, ne pas s'affronter à ça puisque chacun se défausse sur les autres, ça c'est un problème éducatif, je suis désolé, je sais qu'on n'a pas envie de l'entendre, parce que on est là pour défendre tous, avec des variantes éventuellement de appréciation, du disciplinaire. Mais c'est d'abord ça. Et personnellement, je suis à fond pour cet aspect de la réforme, pour la réforme d'ailleurs globalement. Simplement, à mes yeux, bien sûr, elle va pas assez loin. Mais il faut faire avec les acteurs qu'on a.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Voilà.
Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Par définition, ce qui nous unit est disciplinaire. Ouais. Et ce qui unit d'ailleurs les latinistes, ou l'autre, c'est pareil. Hein. Ce qui me semble important, c'est de penser effectivement le processus global de l'élève global. Il n'est pas un élève en histoire un peu, un élève en maths, etc. Bon, donc ça, effectivement, ça me semble cohérent. Déjà, de faire du transdisciplinaire dans notre domaine, que ça s'appelle éducation civique, morale, etc., enfin peu importe ce qu'on appelait l'instruction civique dans mon jeune temps, que ce soit qui était le minimum de droit. Car je vous rappelle que s'il y a un truc, on n'y signe jamais les élèves, c'est au juridique. L'aspect de transdisciplinarité que l'on peut maîtriser, de le faire avec l'enseignant de SVT, alors ça c'est absolument évident, de même qu'on devrait le faire avec le prof de EPS pour l'espace, etc. Bon, il y a beaucoup de choses, et il n'y a pas que des objets bondissants dans des milieux aquatiques, ce qui est un vocabulaire qui se défend, et je suis prêt à défendre d'ailleurs, bon, mais c'est pas le sujet. Vous avez là quelque chose qui nous permettrait de construire. Et si je ne suis pas disciplinaire, inversement, je suis pour le métier. Parce que je crois beaucoup au métier d'historien. Je peux en parler, je suis pas historien, je suis cartographe. Le métier d'historien, c'est effectivement apprendre l'esprit critique. Mais c'est intéressant de le faire sur un texte des Lumières du XVIIIe siècle ou une charte médiévale, je n'en doute pas, avec les problèmes d'âge, d'accessibilité, de lecture qu'on peut facilement évoquer. Mais l'esprit critique, c'est d'abord sur Internet. Sur ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, sur les réseaux sociaux. Hein. Alors là, vous avez un sacré métier, vous, les historiens, pour apprendre à avoir de l'esprit critique. Voilà, donc là, on est vraiment dans du transdisciplinaire, et par ailleurs, je viens d'évoquer une fenêtre sur le monde. C'est pour rendre la parole à Emmanuel.
Bien, merci, Christian Gratalou, de cette première intervention assez vigoureuse, qui nous permet, après le déjeuner, de nous réveiller, n'est-ce pas? Puisqu'on aurait tendance à la sieste post-pendiale, en tout cas pour moi, souvent, donc c'est très très bien. Jocelyne Dacquilla, on voit une attaque un peu nette de Christian Gratalou sur la question de est-ce qu'il est nécessaire absolument que la recherche savante, les universitaires, etc., mettent leur nez dans les programmes, soit liés à la question des programmes, puisque tout compte fait, ce qui compte, c'est la façon dont on enseigne, c'est la pratique professionnelle dans les classes, etc. Et est-ce que les programmes doivent-ils suivre à tout va, d'une certaine façon, les avancées historiographiques? On sait qu'il y a un numéro des Annales qui vient de sortir sur cette thématique-là, de lien entre la recherche savante, universitaire et l'enseignement du secondaire. Qu'est-ce que vous pensez, à partir de votre balcon sur la Méditerranée, si je puis dire, celui que vous pratiquez tout le temps, de l'islam méditerranéen, de votre travail non seulement sur les connexions méditerranéennes à travers la lingua franca et les ports de Méditerranée, mais également, plus généralement, sur la place qu'il y a pour ceux qui viennent de la rive sud de la Méditerranée, dans les pays de la rive nord, puisque vous avez travaillé avec d'autres sur la place des musulmans en Europe, Jocelyne Naclia?
Eh bien, très, très sincèrement, plus ça va et plus je suis convaincue qu'il est important qu'il y ait une ouverture de la recherche en train de se faire sur l'enseignement. C'est peut-être parce que je pratique à titre personnel une recherche avec un investissement civique, enfin avec le projet sciemment assumé de répondre aussi à une demande sociale ou à des questions qui se posent dans la société, des questions nouées, des questions difficiles, évidemment relatives à l'islam, relatives à l'islam en France, à l'islam en Europe notamment. Donc moi, je pense que c'est quelque chose d'utile et que plus généralement, il y a une demande pour ce type de savoir hors de l'université. Donc, il faut répondre à cette demande.
Et faire la jonction entre les...
Absolument, absolument. Et bien sûr, on rêve quand on pense qu'on peut appliquer véritablement la recherche en cours dans des manuels scolaires. Ce serait d'ailleurs pas très prudent nécessairement dès lors que certaines thèses ne font pas consensus, par exemple. Mais on peut tout à fait espérer faire passer une partie des débats en cours, parce que ces débats ont aussi pour effet de dénouer des tensions, y compris des tensions, je pense, intimes, personnelles, que ressentent certains élèves ou même certains enseignants.
Et vous voyez bien, Jocelyne Naclia, que certaines thèses en débat rentrent plus facilement dans les débats scolaires, pourrait-on dire, que d'autres thèses en débat. Quand on voit la question de la Première Guerre mondiale, du consentement, de la question du débat entre consentement ou contrainte, par exemple, on voit bien que assez rapidement, une thèse, une vision de la Première Guerre mondiale a été adoptée par une partie des programmes, etc. Tandis que sur les questions comme l'islam, la place des musulmans en Europe, les relations entre les deux rives de la Méditerranée, c'est plus compliqué tout de même.
Là, il y a des résistances de fond, mais qui sont des résistances qui ne concernent pas seulement le monde éducatif, le système scolaire, qui sont des résistances propres à l'ensemble de la société et très souvent qui sont quasiment inconscientes. Je dirais même que parfois, en pensant bien faire, on peut avoir des effets contre-productifs.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben là, si je prends deux, trois exemples simples, il y a quelques années, on m'avait demandé, dans le cadre d'une formation pédagogique pour des enseignants d'histoire, de regarder les manuels scolaires, de donner un avis sur la manière dont on y enseignait l'islam. Et la première chose, moi, qui m'a frappée, c'était de voir le nombre de sourates du Coran ou de hadith du prophète qui étaient reproduits dans les manuels, qui étaient censés illustrer donc le chapitre sur la naissance de l'islam, l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que on pense que cette histoire, finalement, part du texte sacré. Ou en tout cas, on donne l'impression d'une lecture littéraliste, finalement, de l'islam, alors que, bien évidemment, quand on traite du temps des cathédrales ou des églises romanes, on n'a pas l'idée d'aller citer l'évangile, citer 4-5 extraits des psaumes, que sais-je. Donc, il y a déjà ce type de nœud où, croyant bien faire, en fait, on est à la limite d'accréditer une lecture fondamentaliste de l'islam. Un deuxième exemple, encore plus frappant me semble-t-il, c'est l'accent que l'on porte avec beaucoup de générosité sur l'islam médiéval, l'islam, l'esprit de Tolède,
de Cordoue,
la coexistence pacifique des trois monothéismes en Andalousie, sur Averroès, les grandes figures, et donc sur un islam à son apogée, et on pense finalement... de ce fait qu'on établit une forme de reconnaissance de l'islam qui va valoriser les élèves issus de familles musulmanes. Moi, je crois qu'au contraire, c'est quelque chose de très lourd à porter pour eux, parce qu'en mettant de cette façon l'accent sur un âge d'or supposé, on met aussi l'accent sur un déclin. Et que, du coup, on leur donne à porter une histoire qui n'est plus, une histoire révolue, avec cette espèce d'injonction d'être à la hauteur, finalement, de ce...
Avec des petits rejeux, si on va du côté de l'Empire ottoman et des Tanzimates,
Sauf que l'Empire ottoman et les Tanzimates ne sont quasiment jamais évoqués, comme le mentionnait, par exemple, Colette Beaune ce matin. Et donc, effectivement, il faut restaurer plus de continuité, restaurer le sentiment aussi qu'on est face à... des histoires contemporaines, histoire de l'Europe, histoire islamique en tant qu'histoire contemporaine dans une circulation, y compris une circulation matérielle, culturelle. Moi, je ne défends pas, je ne défends pas tel ou tel label de l'histoire du monde, mais il me semble que de manière très pédagogique, par exemple, montrer les circulations de porcelaine de la Chine vers les Pays-Bas, l'Angleterre, le Maroc qui utilise la porcelaine japonaise et chinoise au XVIIIe siècle.
L'invention des azulejos au Portugal,
voilà,
etc.
De simples images comme ceci restituent finalement ces circulations dans leur contemporanéité et dans tout leur sens de circulation. Et donc, voilà, je veux faire la guerre à des notions comme le déclin, notamment, qui sont en train d'être remises en question par des courants pointus de la recherche. Et ça, c'est une idée simple, c'est une idée en travail, c'est une démonstration en cours, qui est très avancée pour le cas de l'Empire ottoman, mais qui débute aussi pour le cas du monde arabe. Ce sont des idées simples, mais qu'on pourrait, en quelques phrases, finalement, faire passer, instiller le doute sur ces schémas très rigides que nous avons en tête, d'une histoire arabe qui fut grande, mais qui est aujourd'hui complètement atone.
Et donc, vous pensez qu'en faisant cela, justement, on ferait, en faisant la guerre à certaines idées reçues, comme cela, Jocelyne Laclia, on permettrait une meilleure compréhension de l'histoire globale, par exemple, une meilleure vision qui ne serait pas totalement marquée par le vieux schéma qui est le schéma de l'histoire occidentale. C'est-à-dire à la fois grandeur et déclin de l'Empire romain et forcément grandeur et déclin des empires arabes et grandeur et déclin de l'Empire ottoman, par exemple.
Oui, même en tant que chercheuse, moi je ressens une sorte de paix intérieure énorme depuis quelques années, depuis l'affirmation de tous ces courants de l'histoire, parce que justement, nous sommes sortis d'une vision de l'histoire où l'Occident a systématiquement l'initiative historique et le seul en expansion, en mouvement, en réforme. Nous sommes parvenus à une histoire beaucoup plus équilibrée des sociétés dans le monde.
Dans le domaine de la recherche, vous voulez dire.
Dans le domaine de la recherche, mais c'est quelque chose qui, du coup, apporte une forme de réconfort, je dirais, mais même personnel et intime à toutes sortes de gens qui entendent passer ce type de message. C'est une nouvelle façon, tout simplement, de se considérer et de repartir sur une nouvelle base.
Comment faut-il appeler ce qui est à l'œuvre ces temps-ci? Vous aviez co-dirigé, donc, avec Philippe Minard, un numéro qui a fait date de la revue d'histoire moderne et contemporaine, Caroline Douki, qui portait plusieurs titres, on l'a dit, histoire mondiale, changement d'échelle historiographique, histoire connectée, histoire globale, enfin, il n'y avait pas histoire mondiale, justement. Comment faut-il l'appeler, ce qui est en cours, et en quoi est-ce que c'est nécessaire, justement, que ça sorte de ce milieu de la recherche universitaire, qui a été légèrement attaqué par notre ami Christian Grataloup, enfin, pas attaqué, non, mais je comprends bien ce que vous voulez dire. Et donc, pour que ça infuse, que ça parvienne justement dans dans les classes de collège, de lycée, et même à l'école élémentaire.
Ça fait à deux reprises on a essayé de poser une opposition entre historien et géographe et entre Christian Grattalou qui est juste à côté de moi. Je vous rassure, en fait, on est parfaitement d'accord.
Mais bien sûr.
On est parfaitement d'accord. D'abord, je suis. Si je dirais quand même une chose, il me semble que les universitaires sont tout à fait à même de parler de questions d'enseignement et de questions. Vraiment pragmatique et pratique d'enseignement, parce que les universitaires ne sont pas que des chercheurs, ils enseignent. Et je rappelle que dans nos premiers cycles, nous accueillons, et j'en suis tout à fait satisfaite, à partir du moment où on nous en donne les moyens en personnel et en matériel, nous accueillons des étudiants qui viennent du secondaire, des cycles généraux, mais qui viennent aussi de l'enseignement technique et qui viennent aussi de l'enseignement professionnel. Donc savoir comment on fait passer nos propres recherches à des étudiants qui ne sont pas forcément férus de grandes abstractions ou de réflexions épistémologiques, comment on fait pour intéresser des étudiants de premier cycle qui ont tendance, comme tous les jeunes, à s'ennuyer rapidement, sont des questions que nous posons nous aussi au quotidien. Pour cela, je suis tout à fait d'accord avec Christian Grattalou, la transdisciplinarité, ou plutôt la conception globale qu'on doit avoir de nos pratiques est une nécessité. Le lien intrinsèque entre l'histoire et la géographie, et j'ajouterais aussi, nous avons besoin des enseignements de langue vivante qui permettent de comprendre la diversité du monde, sont nécessaires. Et donc, comment est-ce qu'on fait passer les réflexions que nous avons dans la recherche sur les échelles d'analyse? D'ailleurs, lorsque nous avions dirigé avec Philippe Minard le numéro qui s'intitulait donc Histoire globale, histoire connectée, un changement d'échelle historiographique, point d'interrogation, nous avions voulu mettre l'accent sur deux choses. D'abord, la question des échelles d'analyse, en insistant sur le fait que les échelles devaient rester variables selon les phénomènes considérés et que prendre en écharpe une échelle mondiale, une échelle globale, était absolument nécessaire, mais que cela n'invalidait pas le fait que certains phénomènes ou certains aspects de phénomènes devaient être analysés à d'autres échelles qui n'étaient pas forcément nationales, mais qui étaient infrarégionales ou régionales au sens où l'entendent les géographes, c'est-à-dire certaines parties du monde. Le monde est une région. Donc voilà. Alors comment le faire? Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'enseigner aux élèves une histoire qui soit à l'échelle du monde plutôt qu'une histoire mondiale. J'emploierais cette expression pour dire qu'il faut enseigner il me semble nécessaire d'enseigner une histoire qui montre non pas que la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui aurait toujours existé, ce qui reviendrait à une démarche téléologique elle-même absolument pas objective, mais il faudrait que ce soit un enseignement qui leur explique sur la longue durée la diversité du monde, en les rendant attentifs aux temporalités et aux géographies, donc la géographie est bien là, en les rendant attentifs aux temporalités et aux géographies variées des diverses parties du monde, et en leur montrant, Jocelyne Dacquia a eu vraiment raison d'insister là-dessus, je me permets de le redire tellement c'est important, en leur montrant que si ces diverses parties du monde ne sont pas forcément homogènes, ne vivent pas forcément au même rythme, ne construisent pas les mêmes solutions à des problèmes qui sont souvent communs, il y a des relations, des échanges multiples de type matériel, des hommes, des idées, des produits de consommation, des formes de gouvernement des sociétés, des manières qu'ont les sociétés aussi de se révolter, ne l'oublions pas. Ces échanges multiples se sont établis à toutes les époques entre des mondes qui étaient différents. Et tout ça, ça permet de souligner quand même que ce qu'il est important, enfin, l'enjeu qui est important, c'est certainement pas. Enfin, c'est de montrer la diversité du monde, la diversité des mondes dans le passé, parce que quand même l'objectif c'est de permettre aux enfants et aux jeunes de se situer dans le monde d'aujourd'hui, et leur montrer la diversité des mondes passés, c'est aussi leur montrer la diversité des mondes possibles, des mondes possibles aujourd'hui et des mondes possibles demain. Il me semble que une des fonctions de l'enseignement, ce n'est pas de créer du sentiment d'adhésion à ceci ou à cela, c'est surtout de lutter contre la passivité et contre le fatalisme.
Le déterminisme.
Oui, voilà, et contre le fatalisme. Des mondes différents ont existé, des mondes différents peuvent exister. Donc ça me semble vraiment important. Et l'enjeu, c'est de montrer aux élèves cette diversité, non pas pour leur enseigner une grammaire hiérarchisée des civilisations, de reprendre donc ce grand modèle de l'occidentalisation du monde, mais c'est une occasion de sortir de l'idée, qui est une idée fausse, que l'Occident serait l'unique foyer d'invention des modernités de tous ordres, qu'il s'agisse des modernités économiques ou des modernités politiques.
Merci Caroline Douki pour cette première intervention. Je vais donner maintenant la parole à Antonio González, qui est donc professeur d'histoire de l'Antiquité et président de la Société des professeurs d'histoire ancienne à l'université en particulier. Cette question-là, a priori, quand on pense histoire mondiale, quand on pense histoire globale, quand on pense histoire connectée, on ne pense pas spontanément à la question de l'Antiquité. Pourtant, on devrait penser spontanément à la question de l'Antiquité. D'ailleurs, dans les programmes qui sont en lien dans cette discussion, en débat dans cette discussion, il y a effectivement une partie des programmes qui évoque les liens lointains, les premières routes de la soie entre la Chine des Han avec l'Empire romain, donc qui dit que très tôt, effectivement, cette question de penser à l'échelle du monde était déjà à l'œuvre, alors qu'on aurait tendance à la pensée un peu plus tardive, en particulier au moment de ce qu'on a appelé, qu'on n'appelle plus les grandes découvertes, en l'occurrence.
Oui, bien sûr. C'est une évidence, mais une évidence qui n'est pas effectivement reconnue. Dans le sens où les sociétés de l'Antiquité, si on prend notamment les sociétés du bassin méditerranéen, parce qu'on va s'intéresser à l'Antiquité européenne, entre guillemets, hein, puisque les Antiquités, il y en a d'autres. Il y a les Antiquités africaines, les Antiquités américaines, les Antiquités asiatiques, avec des temporalités qui ne sont pas rythmées de la même manière, et avec parfois, effectivement, une vision condescendante, hein, qui a été celle, justement, des Européens vis-à-vis de ces Antiquités. Mais c'est un débat qui, aujourd'hui, je dirais, est en grande partie dépassé dans le monde des antiquisants et des collègues des autres périodes.
Dans le monde des antiquisants, peut-être, mais peut-être pas quand il s'agit de l'appliquer à une question de cours dans l'enseignement du secondaire.
Non, mais je crois qu'on se bat un peu trop la coulpe aujourd'hui. Les collègues du secondaire, moi j'ai été aussi prof dans le secondaire, après le chemin traditionnel, qu'appelle l'agrégation, et voilà. Donc j'ai commencé dans le secondaire, donc j'ai eu une certaine expérience, évidemment lointaine maintenant, mais j'ai beaucoup d'amis qui enseignent toujours dans le secondaire. La pluridisciplinarité, ils savent ce que c'est, ils la pratiquent quotidiennement. Alors évidemment, ils la pratiquent pas sous la forme de l'injonction institutionnelle, ils la pratiquent spontanément en fonction des objets d'enseignement qui sont les leurs, des lieux où ils enseignent, des publics auxquels ils ont à faire face, et il y a, je dirais, une réaction spontanée des collègues pour s'adapter finalement à leur public et intégrer cette pluridisciplinarité que certains de nos collègues appellent pour le futur. Je crois qu'il faut relativiser. Il y a cette réalité qui est constante et qui, à mon avis, a toujours fait partie, je dirais en tout cas, de la formation des historiens géographes. C'est une singularité française, mais c'est une singularité qu'il faut préserver, et c'est une singularité qui a été efficiente, et je crois qu'elle continue à l'être.
Oui, mais comment faire avec cette tension qu'il y a entre ce que vous dites, cette ouverture des universitaires qui travaillent dans votre discipline à d'autres antiquités, par exemple, et puis un discours qui considère que la perte de l'enseignement de la Grèce antique, de Rome antique, de l'Empire romain, etc., serait ce qu'il y aurait de pire, d'une certaine façon, après avoir perdu l'Égypte et l'égyptologie, on perdrait encore les racines anciennes de l'Europe, etc. Alors évidemment, on a bien expliqué dans la première table ronde, et on le dira encore dans la suivante, combien c'est difficile de faire des arbitrages entre des injonctions contradictoires, mais ça en est une injonction contradictoire, Antonio González.
Oui, mais de toute façon, j'ose croire qu'il n'est pas question de renoncer, je dirais, à notre fonds culturel gréco-romain, sans quoi, je veux dire, c'est oublié.
Ou du moins, il faut que Michel Dussault commence à se préparer à de nouvelles attaques et le CSP aussi.
Mais ce serait oublier d'où nous venons. Et on ne peut comprendre ce que nous sommes que si nous savons d'où nous venons. Ça ne veut pas dire qu'il faut se replier stricto sensu sur la culture gréco-romaine. Moi, je déplore ouvertement, par exemple, parce qu'il faut insérer la réforme des programmes à l'école élémentaire, comme vous dites, ou à l'école primaire, comme je dis moi, ou au collège, et puis bientôt au lycée, il faut les intégrer dans un projet plus global, qui est une réforme globalement de l'enseignement donc dans le secondaire, et qui affecte également l'enseignement supérieur. Voilà, il faut chaîner, il faut savoir aussi la globaliser. Hein, c'est pas qu'une question d'espace géographique ou historique, c'est aussi un jeu d'échelle, je veux dire, dans nos pratiques quotidiennes. Et par exemple, le fait que le latin, le grec soient un peu mis à l'encan, hein, sans doute extrêmement marginalisés dans les années qui viennent, c'est empêcher finalement une certaine ouverture culturel pour les élèves. Et contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre ici ou là, ce n'est pas de l'élitisme, voyez, dissimulé. Je crois que ça, c'est une sottise intellectuelle absolue de dire cela. Dans les classes en difficulté, des élèves réussissent en pratiquant justement cette ouverture culturelle. Parce que pour eux, le latin, le grec, ce n'est pas leur culture. Donc il faut inverser parfois les paramètres pour se rendre compte que ce que nous jugeons, nous, comme une culture autochtone et pour d'autres une culture extérieure, et que c'est aussi une ouverture pour eux. Mais pour répondre plus précisément à ce que vous me posez comme question, je crois que justement les sociétés de l'Antiquité, telles que nous pouvons les aborder dans l'enseignement, et je crois que par exemple la classe de 6e, et j'ai envie d'être un peu impérialiste et de dire il faudrait plus d'antiquité dans l'enseignement au collège et au lycée notamment. L'enseignement de l'antiquité permet de se confronter à un fond culturel qui est le nôtre, mais aussi à des formes civilisationnelles qui semblent pour les lycéens avoir totalement disparu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à voir pour ces jeunes. L'antiquité gréco-romaine, ça n'a plus rien à voir. Même si elle jouit aujourd'hui, je dirais, d'un prestige auprès du grand public étonnant. On n'a jamais autant parlé de l'antiquité. Alors évidemment, c'est une antiquité travestie à travers les jeux, les séries, etc. Mais moi, je crois que c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'essayer de retrouver, je dirais, des fondations culturelles, ou trouver même des fondations culturelles pour des populations de jeunes qui justement sont perdues justement dans cette globalisation. Et revenir à l'étude des sociétés de l'Antiquité, par exemple, ça permettrait de travailler justement sur ces premières formes de globalisation. Parce que...
Vous avez travaillé sur l'esclavage dans l'Antiquité, vous, oui. Donc chercheur, par exemple, effectivement, ça permet d'effectivement de... Ça, c'est pas simplement la traite négrière, mais ça permet aussi de réfléchir à la question de...
Oui, et
de,
ça, c'est...
De l'entrée en profondeur de l'Empire romain dans des continents voisins, du trafic d'esclaves dans une société comme la société romaine, par exemple.
Et ça permet... Alors bon, évidemment, moi, je ne veux pas polémiquer ici, hein, bien sûr, et ça n'est pas du tout l'objet.
Pouvez, hein,
mais si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, l'étude de l'esclavage fait total, enfin en tout cas de manière, on va dire, scolaire, fait totalement l'impasse sur l'esclavage antique. Alors on en parle à propos de Athènes. D'ailleurs, c'est étonnant, hein, puisqu'on a ce
livre
de système démocratique et esclavage. On n'en parle pas pour Rome. Alors pour des raisons assez étonnantes, puisque c'est là où on arrive au système esclavagiste, je dirais, de l'Antiquité le plus abouti. Hein, on en fait l'impasse. Mais c'est d'autant plus intéressant que ça nous permettrait de penser de manière systémique ce qu'ont pu être aussi les autres formes de l'esclavage postérieures à partir de l'école moderne. Enfin, esclavage qui n'a jamais disparu. Mmh. Et je termine par ce jeu d'échelle. Je crois que les sociétés de l'Antiquité ont ceci d'intéressant qu'elles ont eu à confronter des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire celle de sortir de l'échelle locale et de se confronter à une échelle beaucoup plus globalisante.
Qu'est-ce que la citoyenneté romaine ?
Voilà, par exemple, la question de la citoyenneté romaine, la question de l'association entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire Rome et l'Italie, et les provinces, et comment finalement des populations qui ont été d'abord des populations soumises ont été progressivement, pour une partie, faut pas non plus embellir les choses, pour une partie promues et ont même fourni des empereurs romains.
Mais la cité de Palmyre en Paris.
Voilà, la cité de Palmyre, oui. Cette dialectique entre local et global, elle a été expérimentée et on y a apporté des réponses.
Merci Antonio González. La parole est maintenant à Franck Collard qui, comme tous les médiévistes, a vu aussi arriver comme cela dans sa discipline et dans sa période, cette question de la mondialisation en cours de l'historiographie en tous les cas, un changement d'échelle là aussi. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Vous alors, êtes par ailleurs vice-président de la PHG, l'Association des professeurs d'histoire géographie.
Oui, alors j'aimerais dire deux mots d'abord pour remercier quand même l'occasion qui est donnée de discuter de ces problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays dans le monde où finalement on consacrerait comme ça une journée entière et une émission de radio. C'est le signe que la France ne va pas si mal que ça de ce point de vue-là. La deuxième chose que je voudrais dire avant de répondre directement à votre question, s'adresse à mon collègue, nous avons été effectivement dans les mêmes amphis durant quelques années à l'université de Reims,
Christian Grattalo.
Pour lui dire voilà, que je suis un petit peu triste de la manière dont il a abordé à la fois les rapports entre les historiens et les géographes. Moi, je croyais naïvement que c'était la robe sans couture qui était encore celle de l'histoire-géographie. La couture est déchirée depuis bien longtemps. Il a donné quelques pistes pour rafistoler les deux morceaux. Je ne suis pas sûr que ça aille vraiment
Pour faire une autre robe.
Ouais. C'est le problème. C'est le changement de la mode que je réclame. Et donc, je voulais simplement dire, au nom, cette fois-ci, de la PHG, que je ne crois pas du tout que les universitaires soient disqualifiés pour parler des problèmes qui nous intéressent. Je pense que heureusement qu'ils sont là pour jeter un œil critique sur les manuels scolaires qui sont truffés d'erreurs. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement également.
Les
manuels scolaires sont truffés d'erreurs. J'en ai examiné un certain nombre sur la ville médiévale. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien il y a des erreurs qui circulent. Donc, ne serait-ce que pour cette question de salubrité intellectuelle.
Mais on sait tous, et on le dira dans la prochaine table ronde, que ce n'est pas les manuels scolaires qui font l'enseignement.
Non, mais bien sûr. Je disais simplement que les universitaires ont leur place à cet endroit. Et puis, ils ont aussi leur place dans, la mise en commun des problèmes qui sont les mêmes au collège, au lycée et dans les premiers cycles universitaires. Et c'est la raison pour laquelle la PHG est une association qui va pratiquement de la maternelle au supérieur, même si nous avons surtout des adhérents qui sont professeurs de l'enseignement secondaire. Et donc je pense qu'il y a au contraire une utilité à se rapprocher et avoir un lien, ne serait-ce que parce que dans les programmes du secondaire, il y aura des notions à bien maîtriser et qu'elles ne seront bien maîtrisées, ces notions et ces idées, qu'à condition que les enseignants aient été bien formés à l'université. Donc moi, je pense qu'il y a un lien absolument essentiel et qu'il faut encore renforcer entre les niveaux d'enseignement. Donc je tenais à le dire. Il serait faux de croire que c'est simplement la raison corporatiste qui parle quand nous nous exprimons pour l'Antiquité, comme l'a fait mon collègue, pour le Moyen-Âge, comme je peux le faire. Il y a aussi une conception d'un enseignement global. Et un certain nombre d'universitaires, j'en fais partie, sont engagés notamment dans le tutorat des élèves, des étudiants du Master MEF. Ils estiment que...
Qu'est-ce que le Master MEF, pour ceux qui ne sont pas...
Le Master MEF, c'est le Master éducation et enseignement. Et ils estiment qu'ils ont un rôle à jouer absolument fondamental. Donc je referme cette parenthèse pour répondre, excusez-moi Emmanuel Laurentin, à votre question. Comment est-ce que la mondialisation m'est tombée dessus par un coup de téléphone de Patrick Boucheron qui m'a dit je coordonne une histoire du monde au XVe siècle, est-ce que tu voudrais y participer? Quand je vais vous dire sur quel sujet j'ai écrit ma notice, vous allez voir que je suis encore plus suspect que pourrait le penser mon voisin, puisqu'il m'a demandé d'écrire une notice sur le bal des Ardents, qui n'est pas un événement mondial particulièrement retentissant.
C'est pas comme ça qu'on le voit habituellement.
C'est pas comme ça qu'on le voit, exactement. Mais pour être plus sérieux, la médiévistique française, celle que je connais le mieux, est tout à fait convaincu, persuadé de l'importance de cette échelle de réflexion nouvelle, alors même que on peut considérer que qu'est-ce que c'est que la guerre chevaleresque, c'est ce que Barthélemy appelle la guerre vicinale, qu'est-ce que c'est que le fief, c'est une tyrannie de canton, donc on est dans une sorte de d'échelle géographique qui paraît extrêmement petite.
Ridicule même.
Eh bien, je laisse non, le mot.
J'étais moi-même médiéviste, donc je sais ce qu'il en est.
Voilà, et donc bien loin de là, évidemment, on est sorti de ces préoccupations, de cette vision qui est fausse, et j'en donnerai deux exemples, dont l'un d'ailleurs est assez, comment dire, assez réconfortant, parce que il est finalement passé dans les nouveaux programmes tels qu'ils sont préparés. Le premier exemple, bon, c'est précisément cette démarche tout à fait stimulante de Patrick Boucheron sur l'histoire du monde au XVe siècle, qui est à la fois une histoire notionnelle, spatiale, une histoire aussi événementielle, avec une trame chronologique. Je reprenais le livre ce matin pour préparer mon intervention, qui insiste sur les dates, sur les événements, hein, qu'il ne faudrait surtout pas oublier dans ce qui est à enseigner aux jeunes
élèves. Je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment.
Comment ?
Parce que j'ai pas l'impression que ça soit vraiment oublié, justement.
Non, mais mieux vaut le dire. Hein, oui. Enseigner, c'est répéter, vous connaissez la formule. Hein. Non, parce que mon voisin, je dis ça très amicalement, mais a développé tout à l'heure une vision qui me paraît très ambitieuse intellectuellement et très séduisante d'une sorte de transversalité générale qui, moi, m'inquiète un petit peu. Je pense que si on dilue tout dans la transversalité, on perdra les repères.
Le terme de dilution est revenu plusieurs fois dans cette...
Non, mais il y avait l'idée, effectivement, qu'il fallait s'élever un petit peu au-dessus du béaba. Moi, je pense que le béaba est important, que les repères chronologiques, les repères spatiaux, les personnages... Alors, c'est très bien. Sont absolument fondamentaux et qu'il faut aussi ne pas oublier cette sorte de grammaire historique avec ses conjugaisons ou ses déclinaisons dans des projets qui seraient, je pense qu'il faut être ambitieux et pas présomptueux. Et j'ai parfois l'impression que l'institution est un petit peu présomptueuse et que, vu de l'université, on risque aussi d'être un peu présomptueux en oubliant les réalités du terrain que les universitaires connaissent, ne serait-ce que pour aller dans les classes. Moi, je les ai fait cette année comme tuteur universitaire. On voit un petit peu comment ça se passe et ça ramène à beaucoup d'humilité. Laurence de Kock le disait, mais elle a tout à fait raison. Donc, cette histoire du monde au XVe siècle, j'ai vu avec satisfaction. Il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles. Il faut quand même savourer celles qui tombent. J'ai vu avec satisfaction que le programme du cycle 4, le programme de 5e, la prenait en compte, puisqu'il y a, alors c'est malheureusement facultatif, hein, enfin au choix, mais il y a le monde vers 1500. Hein, oui. Et donc là, on a un exemple même d'une sorte de transfert.
De translation,
mais dont le succès sera conditionné par, évidemment, une formation adéquate de ceux qui auront à enseigner cela. Or, c'est un point sur lequel je voudrais beaucoup insister. Vous avez fait, cher Emmanuel Laurentin, une émission il y a quelque temps, c'était un lundi, mais je crois qu'il y a une quinzaine de jours, sur la formation continue.
Hein, absolument.
Et j'ai tendu l'oreille parce que...
C'était à propos du dossier des annales, justement.
Voilà, parce que j'espérais qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un dirait que la PHG œuvrait et ô combien pour la formation continue.
Mince, alors, j'ai oublié de citer la PHG.
Je n'ai pas entendu ces quatre lettres qui sont chères à mon cœur. Je le regrette beaucoup. J'insiste simplement pour dire que si l'on veut avoir cet enseignement ambitieux d'une histoire mondiale, il faudra bien que l'institution accepte qu'une formation continue digne de ce nom soit délivrée. La PHG le fait à travers des forums, des agora, qui sont souvent d'ailleurs consacrés à des problèmes d'histoire mondiale. On a eu par exemple à Reims un forum sur la notion de puissance, où on a eu des éléments sur les grands empires africains. Donc il y a une démarche qui est faite. Encore faudrait-il qu'on laisse les enseignants quitter un petit peu leurs élèves, parfois ça leur fait beaucoup de bien, pour venir un petit peu s'aérer l'esprit à ces journées de formation continue. Je termine simplement en vous donnant le deuxième exemple, puis après,
allez-y.
Le deuxième exemple par lequel on démontrera que les médiévistes sont plus mondialisés qu'on ne pourrait croire. L'an prochain, en 2016, le congrès de la Société des médiévistes de l'enseignement supérieur se réunit à Arras, place qui a eu une grande importance économique au Moyen-Âge, sinon mondiale en tout cas, les tapisseries
européennes,
hein, Arras, allaient partout. Hein, et le thème en sera précisément l'histoire mondiale, l'histoire connectée, vue depuis la médiévistique, internationale. Hein, et nous avons décidé, enfin la Schmesse pas décidé, moi je n'y suis pour rien, mais il y a un des organisateurs qui est dans la salle, Antoine Destembert, a décidé d'examiner un problème qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout étranger aux médiévistes, mais au contraire est au cœur de leur réflexion.
Merci Franck Collard d'avoir donc ajouté votre pierre à cet édifice. Dernier intervenant, il arrive tard, mais il a préparé son intervention. Vincent Capdepuis, donc je vous représente pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes géohistorien, professeur au lycée Ambroise Vollard de Saint-Pierre de la Réunion. Vous êtes co-auteur d'un blog qui s'appelle Histoire globale. Alors, histoire globale, histoire mondiale, pareil, histoire connectée. C'est quoi la différence et pourquoi vous appelez ça histoire globale, par exemple?
Bien. Alors, je tiens d'abord à remercier le CSP de m'avoir invité, de m'avoir permis de franchir ces 9000 kilomètres depuis la Réunion pour venir ici. Il y a une différence. Alors, je ne veux pas paraître sectaire dans la définition parce que ça reste extrêmement débattu, ces appellations. Pour faire simple, l'histoire connectée, c'est l'histoire de la mise en relation de sociétés et d'espaces qui jusqu'alors étaient séparés. Hein. Il y a Dama qui était Dama d'humanité qui était disjoint. L'histoire mondiale, c'est ce qu'on appelait avant et ce qu'on a continué d'appeler l'histoire universelle. C'est la somme de toutes les histoires du monde. Et de ce point de vue-là, c'est évident qu'on ne peut pas enseigner l'histoire mondiale. Mmh. Je crois d'ailleurs qu'il n'a jamais été question d'enseigner l'histoire mondiale. Et les projets qui nous ont été proposés ne correspondent pas à cette idée-là. On est dans quelque chose, on l'a dit ce matin, mais je le répète, on est quand même dans des textes enfin, qui sont extrêmement classiques. Hein. Pour le cycle 3, on est sur du récit national. Pour le cycle 4, à partir de la 6e, même, donc, parce que ça recoupe pas totalement le découpage en cycle, on est sur ce que moi j'appelle du roman civilisationnel, hein, c'est-à-dire qu'on part du néolithique, on enchaîne sur l'Orient ancien, ensuite la Grèce, Rome.
Donc on fait tous barouf pour rien.
Ben un peu quand même. La polémique, elle est complètement disproportionnée par rapport à ce qui était proposé. Enfin, à un moment donné, c'est complètement dingue parce que on est sur quelque chose de très classique et que James Blot, donc qui est un géographe qui fait l'histoire globale en 1993, appelait de l'histoire tunnel. Donc parce qu'on est toujours sur ce même tunnel et qui n'est pas du tout propre à la France, hein, qu'on retrouve dans d'autres enseignements et depuis le 18e siècle voire avant. Donc c'est vrai qu'il y a des petites fenêtres là qui se sont ouvertes donc pour Rome. Là, on a des formulations que je trouve intéressantes.
Des voies de déviation, vous voulez dire à l'intérieur du tunnel?
Oui, voilà. Et encore, c'est très classique, hein, parce que pour Rome, on parle de la route de la soie, mais pas du tout donc a priori par l'Asie centrale, et pas du tout des voies maritimes de l'océan Indien. Alors ça me concerne un peu plus, mais je crois que l'archéologie quand même apporte beaucoup sur la diffusion des amphores, par exemple. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a d'autres, il y a de multiples voies hein, pour ne prendre qu'un détail. Et enfin, l'histoire globale, pour moi, c'est un sens quand même. Enfin, moi, pas que pour moi, mais. On est plusieurs sur le blog. Il y a quand même quelques personnes qui font de l'histoire globale en France, même si elles sont rares, parce que très dénigrées, parce que ne correspondant pas du tout aux pratiques classiques de l'historien, d'un travail sur un champ clos de documents, d'archives ou autres. L'histoire globale, c'est l'histoire de la mondialisation. C'est l'histoire des mondialisations, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a qui n'ont pas abouti, il y en a qui se sont entrecroisés. Et c'est l'histoire du monde avec une majuscule. Je reprends, là, c'est pas qu'un détail, mais ce qu'a introduit Olivier Dollfuss en 1983, le fait que maintenant, on vit dans un espace unifié. Et c'est la principale justification quand même de cette ouverture à une histoire un peu mondiale, c'est vrai, et pas du tout ce qu'a dit Pierre Noir ce matin. C'est tout simplement parce qu'on vit dans nos élèves, encore plus, mais ils sont amenés à vivre dans un espace qui est mondialisé.
Mais dites-moi, cette question de l'utilisation de ces termes est-elle si importante quand on arrive à cette échelle-là, qui est l'échelle de l'enseignement dans le secondaire, par exemple, ou à la fin du primaire? Est-ce que c'est important ou est-ce que ça n'est pas si important que cela? Est-ce que entre l'histoire connectée, par exemple, et l'histoire globale, telle que vous êtes en train d'en parler, comme c'était d'ailleurs le titre de la RHMC il y a 7 ou 8 ans, ça n'est pas, les différences ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse commencer à monter, à dresser un mur et à dire attention, ça n'est pas la même chose, etc., etc.
Non, alors j'ai répondu en tant que chercheur.
Oui.
Pas en voilà. tant que voilà. J'ai répondu en tant que chercheur parce que voilà, je travaille sur ça. Je pense que ces termes d'histoire connectée, d'histoire mondiale ou d'histoire globale n'ont pas à être prononcés dans une classe de CE2 ou de CM1, on est bien d'accord. D'autant plus qu'après, concrètement, je pense que les échelles s'interprénètrent. Et là, je rejoins complètement ce qu'a développé Christian Grataloup. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, il faudrait casser même ce qui encore nous est proposé aujourd'hui. Mmh. Pour avoir un programme géohistorique qu'on a à peine touché pendant 2 ans en option de terminal S, pour avoir un enseignement qui soit thématique et multiscalaire.
Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on oublie peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord les uns et les autres avec moi, les unes et les autres avec moi, autour de cette question-là, c'est le plaisir qu'il y a à ce changement d'échelle. C'est-à-dire, on parle là de façon très savante, emboîtement d'échelle, etc., etc. Mais quand on lit des livres d'histoire, alors global, connecté, je ne sais, d'un seul coup, le vent souffle. Enfin, d'un seul coup, on ouvre les fenêtres, d'un seul coup, on ouvre les portes-fenêtres, ça commence à claquer, et sans parler des vents tropicaux, il y a quelque chose qui nous emporte, qui nous emmène, je sais pas, Vincent Cap depuis, et ça, faudrait pas oublier que dans la façon dont qu'on a de s'adresser à des classes, il y a peut-être aussi ce plaisir-là qu'on a à raconter ce type de rencontres, de non-rencontres, d'espaces nouveaux, de discussions entre gens qui ne se parlent pas et qui sont obligés de passer par des truchements, des droguements, je m'adresse à ma voisine, et des langues inventées parce qu'on ne sait plus comment s'adresser à l'autre, etc. Et que là, il y a un réservoir d'histoire absolument formidable, Vincent Capdepuis.
Mais complètement, mais je crois que Dominique Bond, ce matin, a évoqué comme thème, alors, la langue en France. J'avais proposé, moi, 2 ans, justement, pour la sixième, et ça pourrait être pour un autre niveau, mais qu'importe, hein, de cycle 3 ou de cycle 4, les langues en France, ça serait un objet thématique d'enseignement absolument formidable, en partant des langues régionales, de la langue française avec tous ses apports, des langues, alors bon, ça me concerne pas un peu directement, mais du créole à la Réunion, et il y a de quoi circuler dans le temps et de circuler dans les espaces.
Caroline Doki, sur ces questions.
Oui, je pense que on n'a pas forcément au niveau de l'enseignement élémentaire, secondaire, voire même dans les toutes premières années de l'université, à entrer dans la, j'allais dire la casuistique, non, mais à entrer dans le détail des approches qui sont diverses, hein, vraiment différentes entre histoire globale et histoire connectée. Je pense, en revanche, qu'il faut peut-être passer par une réflexion plus pratique. Ce qui est important, bien sûr, c'est de faire souffler le vent du large,
Ah, je sais pas, moi, c'est
voilà,
mon avis,
mais je suis d'accord. Et c'est surtout d'apprendre aux élèves très tôt à décloisonner leur regard à plusieurs échelles, que ce soit bien sûr une échelle nationale, bien sûr, c'est important, mais aussi une échelle qui ne soit pas nationale, qui soit infranationale, une échelle qui soit, qui peut être celle de la francophonie, qui peut être celle de l'Europe ou d'une autre Europe que celle qui se construit aujourd'hui, puisque l'Europe a eu
des figures différentes,
des frontières différentes, des espaces différents et des buts différents aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un plaisir d'enseigner et ça de montrer aux élèves comment on décloisonne son regard. En les faisant travailler en classe à partir de documents d'archives qui permettent de leur montrer la diversité des points de vue sur un même événement, sur un même processus. Par exemple, si on s'intéresse au monde issu des grandes découvertes américaines, on peut suivre suivre les suggestions que nous donnent les livres de Serge Krusinski, qui a montré comment il fallait regarder les grandes découvertes et le monde qui en est issu de différents points de vue, puisqu'il a montré lui-même les dynamiques de métissage dans l'empire espagnol américain de l'époque moderne, en montrant bien qu'il ne se réduisait absolument pas à une pure et simple domination européenne, mais que, par exemple, les élites, les notables métissés, en fait, avaient leur propre point de vue sur la question, n'étaient pas des relais de l'Espagne.
Oui, avec la question, par exemple, de faire rentrer les, question de négociation, de rencontre.
Voilà, de négociation, de rencontre.
De non-rencontre.
De confrontation aussi.
Y compris violente, voilà, mais aussi. Voilà. Christian Grataloup, vous vouliez intervenir. Je signe la client ensuite, Christian Grataloup.
C'était à propos de l'ouverture des fenêtres. Effectivement, je crois que, comme on utilise un vocabulaire synthétique et donc vite abstrait, avec des mots comme échelle, etc., on a très vite l'idée que c'est un peu compliqué.
Ou un peu sec.
Alors, c'est pas ça du tout. Ce matin, avec Sylvie April a donné un excellent exemple avec les champs de coton et donc les plantations. D'une part, et les usines textiles de la révolution industrielle, voilà tout à fait une manière concrète et simple qu'on peut aborder très tôt. Moi, j'ai l'habitude de le faire avec le petit déjeuner sur thé, café ou chocolat, avec ou sans sucre. Hein. Vous avez une belle question de géographie.
Oui, partir de la table de la cantine.
Et remarquez que ça correspond bien à une demande, parce que si vous le traduisez en termes de succès éditoriaux, c'est une chose à laquelle tous les auteurs ici présents sont sensibles. Le chapeau peau de Vermeer, effectivement...
Et le dernier livre de Timothy Brook qui traite aussi de cette question-là.
Voilà, le dernier livre de Timothy Brook sur la carte chinoise.
C'est John Sander.
Le rhinocéros d'or. Et puis, évidemment, tous les bouquins de Grusinski. Hein. Donc,
Livres de Maurice Sartre sur les histoires romaines,
voilà,
aussi, etc.
On a plein d'exemples. C'est pas difficile. Hein. Et de ce point de vue-là, si vous voulez une liste de travaux d'exercices prêts, moi, le blog de Vincent Capdepuis, sur l'histoire globale, il est parfait. Vous avez les documents tout prêts. Hein. Vous avez là quelque chose qui permet d'aborder des jeux d'échelle, des réseaux, des circuits, sans que ce soit techniquement compliqué. Et au contraire, on est dans le concret. Et on touche avec, je ne sais pas, la soie romaine de la tunique de César ou la mention du petit déjeuner au XVIIIe siècle à des choses qui sont tout à fait équivalentes de ce qu'on peut faire en géographie aujourd'hui, au sens de la géographie que vous utilisez en classe, c'est-à-dire du présent. Mais là, on est dans le présent autant que dans le passé. D'ailleurs, si vous faites attention, Antonio González vous a fait un excellent cours de géographie sur centre et périphérie dans l'Empire romain. Moi, j'étais voilà, un bon cours de géographie, j'y souscris tout à fait. Et on a là typiquement le genre de choses qui sont celles qui ne sont pas du tout aussi ambitieuses que ça, hein, au sens tout à fait mise en application que je souhaitais suggérer.
Franck Collard, Caroline Douki, et puis Jocelyne Clia, Franck Collard.
Oui, très, très rapidement et au risque de faire retomber le débat au ras du sol. Hein, mais il y a quand même... Donc, de ne pas quitter le ras du sol. Donc, je voulais dire que tout
la table
ceci
du petit déjeuner, en tous les
est un programme effectivement séduisant. Et j'admets qu'il soit réalisable sans doute à partir d'éléments concrets. Mais il y a deux choses qui m'inquiètent un petit peu. D'abord, c'est faisable dans des conditions... Alors, on va revenir aux horaires, mais je suis désolé. C'est le nerf de tout. Il y a 40 ans, moi, quand je suis entré en collège... tout n'allait pas mieux, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il y avait 4 heures hein, d'histoire-géographie. Maintenant, il n'y a plus que 2 heures et demie. Donc, il faut aussi bien prendre en considération que les collègues de collège ont parfois l'impression qu'on leur demande en fait l'impossible. Hein, on leur demande d'être réaliste, c'est-à-dire de faire l'impossible et de multiplier les pistes d'études, les angles de vue dans des horaires qui fondent comme peau de chagrin. Et donc, après quoi, on ne doit pas s'étonner effectivement des béants qui existent dans la culture historique et géographique. On nous dit qu'elles ont toujours existé depuis le certificat d'études. Moi, j'en suis pas persuadé. En tout cas, quand on lit les copies, comme c'est la saison en ce moment. Et donc, c'est le deuxième point que je voudrais aborder, mais qui est très, très concret. Mais je pense qu'il parle aux collègues du secondaire. C'est justement cette question des béances. J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas imaginer de faire de l'histoire générale qui irait de l'origine de l'homme jusqu'à l'époque très contemporaine avec un continuum chronologique parfait, mais où placer le curseur entre quand même une continuité historique qui montre l'enchaînement des événements, qui sache placer les dynasties dans l'histoire du monde, et puis ces études thématiques qui sont des entrées, encore une fois, extrêmement séduisantes, mais qui... Si on résume ou si on réduit l'enseignement de l'histoire à cela, eh bien, vont contribuer à faire que les élèves, à l'issue de la scolarité obligatoire, auront des flashs, auront des connaissances peut-être poussées mais très ponctuelles et auront bien du mal à faire le lien entre les choses et les
Je suis désolé de vous dire qu'après après avoir préparé l'agrégation, j'avais beaucoup de flash et beaucoup de béance.
Bien sûr.
Et que c'était malheureusement ma connaissance de l'histoire. Voilà, je suis désolé pour ça, Francola. Caroline Douqui et Jocelyne Daclia.
Ben, on s'attendait à débattre et n'être pas d'accord sur les échelles à laquelle, auxquelles nous devions enseigner. Et visiblement, c'est plutôt sur les questions de la chronologie que nous trouvons un front. Moi, j'entends ce que dit Franck Collard. Pour autant, je pense vraiment que le type d'approche à l'échelle du monde peut parfaitement s'articuler avec l'enseignement d'une chronologie. Étant entendu, ça, moi, j'y tiens, que la chronologie, ça ne se confond pas forcément avec une succession de dates politiques. Et on peut très bien articuler un enseignement à l'échelle du monde avec la chronologie, soit pour dégager des grandes tensions chronologiques, soit pour souligner des décalages chronologiques qui, encore une fois, ne sont pas à interpréter en termes de précocité ou en termes de retard, mais en termes de diversité solutions de gouvernement, des solutions d'organisation économique, selon les espaces et selon la géographie considérée.
On est d'accord.
Jocelyne Daclia.
Oui, sur cette question de la chronologie, moi aussi, bien sûr, je suis d'accord, puisque l'enjeu premier, me semble-t-il, c'est de rétablir des contemporanéités, de sortir de ce schéma un peu monadologique de nation en soi, de civilisation en soi, et donc de rétablir avec de la circulation, avec du mouvement, plus de contemporanéité. Les trous, les lacunes,
les béances,
en revanche, sont structurelles. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, bien évidemment, une formation exhaustive. On ne peut pas la dispenser, on ne peut pas la recevoir. L'essentiel étant d'être capable d'être dans une démarche critique ou d'avoir au moins une fois, deux fois dans sa vie la démonstration d'une approche critique d'une question d'histoire ou de littérature ou que sais-je. Donc pour moi, le problème d'avoir à faire des choix et de laisser certaines questions dans l'ombre, à la limite, on peut parfaitement le justifier et le gérer, pourvu qu'on laisse ouverte la démonstration, enfin la possibilité de d'ouvrir la porte pour rester dans la métaphore. Et sinon, pour revenir à ce débat sur la nation ou le monde, je dirais que finalement, ce qui est en jeu, c'est le changement de notre notion de la nation. C'est-à-dire que le monde est dans la nation. Le monde est dans l'histoire nationale. Et pour revenir aussi à cette approche un peu thérapeutique que j'évoquais, qui ne résume pas à elle seule, bien sûr, toute la recherche historique, mais pour revenir à cette dimension thérapeutique, il me semble que même des questions qui fâchent, même des questions qui font polémique, controverse, comme la colonisation, l'esclavage, gagnent justement à un changement d'échelle, gagnent à être étudiées comme système et gagnent à ce qu'on sorte d'un face-à-face, d'un huis clos national. Ça me paraît tout à fait pertinent. On vient d'en avoir des éléments de démonstration à propos de l'esclavage, où il serait tout à fait pertinent et important de rappeler aussi que la France a continué de pratiquer l'esclavage. On voit aussi souvent ce débat, il y a une controverse qui vient des États-Unis, mais qu'on retrouve aussi en France, notamment sur des sites internet d'extrême droite, cette idée que la traite atlantique, finalement, est relativisée dans son importance par le rappel qu'il y a eu un esclavage musulman, islamique, en Méditerranée, que même des Européens ont été réduits en esclavage par les musulmans. Moi, je n'ai aucun problème à évoquer le fait que des Africains ou des musulmans arabes ont pratiqué l'esclavage, ça me paraît tout à fait logique. Et il y a justement une forme de...
Vous voulez dire que c'est artificiel de monter l'un contre l'autre ?
Voilà, ce ne sont pas des histoires qui s'annulent, qui se compensent l'une l'autre. Au contraire, elles s'additionnent dans la démonstration d'un système, d'une logique, comme l'évoquait quelqu'un ce matin, je pense que c'est Sylvie April, d'une logique économique, d'une logique du travail, qui est une logique révolue. Mais donc là, il y a une démonstration de contemporanéité qui peut servir à apaiser finalement le débat franco-français sur la question de l'esclavage, par exemple.
Vincent Capdepuis et Antonio González, avant de donner la parole à la salle.
Oui, je voudrais réagir un petit peu là, d'abord à ce qu'a dit Franck Collin, parce que ce discours décliniste, moi, m'horripile un tout petit peu. J'ai entendu quand même deux universitaires dire des erreurs ce matin, donc voilà. Montrer en exemple les universitaires, à un moment donné, on peut...
Je vois pas à quoi vous faites allusion. Qu'est-ce qui a été montré en exemple? Je comprends pas.
Ce matin?
Non, là, vous êtes en
vous,
train de...
Vous, non, mais que les universitaires corrigent les manuels, etc., que le niveau décline. Je crois que la capacité à se tromper, on la partage tous ici.
Non.
Voilà. Ensuite, on peut, sur la chronologie et sur l'abéance, oui, on a... Enfin, Emmanuel l'a dit, on a tous des béances, ça serait très prétentieux.
Très honnêtement et très personnellement, j'ai des béances, mais je ne veux pas dire que tout le monde en a.
J'ai aussi des béances, voilà.
J'ai encore une table ronde animée, je ne veux pas me fâcher avec tous ceux qui sont dans cette salle, donc continuez.
Bon, on peut... C'est évident que les élèves sortent avec des trous. Et on mourra avec des trous. Hein. Après, on peut s'interroger sur l'objectif de l'enseignement de l'histoire. Ça a été dit ce matin. Il y a des repères, c'est évident. Donc on peut discuter des repères communs ou non, d'ailleurs, parce que la part d'optionnel, elle existe déjà. Et je ne reviens pas dessus. C'est s'interroger sur des outils pour penser l'espace, des outils pour penser le temps, la synchronie, la diachronie, etc. C'est des outils pour s'interroger sur des facteurs, la répartition des climats, des configurations spatiales, le rôle de la distance, les organisations centre-périphérie, on en a parlé. C'est s'interroger sur les acteurs, et c'est quelque chose qui est profondément transdisciplinaire à l'histoire, à la géographie et à un enseignement de sciences humaines que je défends. Le tournant actoriel, Michel Lussault en est un des auteurs, si je puis dire. On a ça en commun entre la géographie.
Le tournant actoriel, pour ceux qui ne sont pas professeurs, pas spécialistes, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Qui agit? Les individus, les groupes, les États, les organisations, etc. Et ça, c'est extrêmement important de forger, alors je vais être un peu sec, je suis désolé, mais de forger une ontologie, enfin de, pour ces élèves, comment penser le monde? Parce que c'est pas uniquement connaître le passé, c'est donner des outils pour penser le présent et pour qu'ils soient capables de penser leur futur. Donc tout ce bagage intellectuel qu'on transmet, qu'on leur apprend grâce à l'histoire et grâce à la géographie, c'est fondamental.
Antonio González, et je vais donner la parole dans la salle ensuite.
D'accord, merci. Je crois d'abord qu'il faut dire que toute histoire ou toute géographie est contemporaine. C'est-à-dire qu'elle est le produit d'une culture à un moment donné, du regard qu'elle porte sur elle-même et qu'elle porte sur les autres. Et tant mieux, puisque du coup, sinon nous ne serions pas là, puisque ceux qui nous ont précédés, et certains le pensaient, avaient déjà tout dit. Donc les générations se succèdent et ouvrent de nouveaux horizons.
C'est sûr que quand on est Luce Fétone, après c'est fini, quoi. C'est terminé.
De nouvelles portes, fenêtres, de nouvelles fenêtres. Je ne sais pas trop quelle est l'ampleur qu'il faut donner à l'ouverture, mais en tout cas, c'est une nécessité. Et je crois, c'est un peu paradoxal ce que je viens de dire là, et peut-être un peu iconoclaste, je crois que ce n'est pas une découverte. Je crois que les historiens et les géographes l'ont pratiqué de tout temps. Il suffit de penser, je pense à Élisée Reclus par exemple, qui dans sa géographie universelle, donc à la charnière de la fin du 19e et du 20e siècle, donne finalement une vision universelle en quelque sorte de ce que pouvait être le genre humain dans sa grande diversité. Dans sa très grande diversité, et évidemment cet aspect a été pendant quelques décennies un peu estompé, et puis aujourd'hui il fait partie, je dirais, même si on ne parle plus guère d'Élisée Reclus, il fait quand même partie, des grands géographes que l'on a redécouverts, en quelque sorte. Donc pour l'histoire, c'est pareil, on a fini par oublier, et là c'est un peu l'antiquisant qui parle, que les auteurs anciens, parfois, n'étaient pas seulement des historiens finalistes, c'est-à-dire qu'ils visaient un objectif précis, mais que parfois, ils avaient conscience de la réalité, de la diversité du monde. Il suffit de penser, par exemple, aux historiens d'Alexandre, ou aux encyclopédistes, comme Pline l'Ancien, ou Théophraste, qui donnent des descriptions du monde, qui sont des descriptions du monde, évidemment, amusées, abusantes, parfois
curieuses,
décalées,
curieuses et gourmandes aussi,
quelquefois. Curieuses, gourmandes, et qui finalement traduisait une position culturelle dominante, puisque c'était des individus qui dominaient, qui avaient bien conscience, je dirais, de leur puissance, mais qui en même temps savaient qu'il y avait autre chose. Et c'était cette contradiction qui était dynamique, et je terminerai par là, en disant que, aussi bien, je dirais, pour schématiser les choses, évidemment, il faudrait être beaucoup plus nuancé, mais Grecs et Romains se définissaient comme les maîtres du monde. Ils étaient les maîtres de l'oïkoumène, c'est-à-dire d'un foyer qui était censé recouvrir l'ensemble, je dirais, de l'espace terrestre, tout en sachant qu'il ne le dominait pas, cet espace terrestre, puisqu'il y en avait, il y avait d'autres. Et l'ambassade, par exemple, chinoise sous Auguste à Rome, montre bien qu'il y a un espace alternatif, oui, en quelque autre. Sorte, un espace autre que l'on ne peut pas conquérir. Et je crois que la grande rupture, de ce point de vue-là, ça a été l'échec des armées romaines de Varus contre les Germains, où alors que l'Empire romain était dans une dynamique mondiale, d'un seul coup, par l'échec militaire, prend conscience qu'il y a une partie du monde qui lui échappera et que, du coup, la fascination en sera d'autant plus grande.
Merci, merci de cette vision antique et ancienne, plutôt, puisque je ne sais pas si on dit antique ou ancienne dans ces cas-là. Je fais attention au global, mondial, j'ai bien compris qu'il fallait faire attention aux termes et aux adjectifs. Donc, cette vision, Antonio González. Une question de la salle, Jean-Marc Fèvre, qui va intervenir dans la troisième table ronde.
Un accord entre Christian Grataloup et Franck Collard. Je crois qu'ils sont tout à fait complémentaires. Dans le sens où Christian Grataloup nous propose quelque chose qui est transdisciplinaire. Et dans un pays où histoire et géographie sont totalement et historiquement liées. Faire de la transdisciplinarité, c'est un très beau projet. Et c'est vrai que ça vient de loin, ça vient d'Élysée Reclus. Il y a quelque chose d'ailleurs là-dessus qui me paraît être un très bon exemple. C'est le livre de Roger Dion de 1949 sur les frontières de la France, qui est une leçon d'histoire qui est extraordinaire. En une centaine de pages, on vous apprend, il vous apprend comment, et c'est toujours utilisable, montrer une construction territoriale qui va de Capet, voire de 843 et du traité de Verdun, jusqu'au rattachement de la Savoie et la construction de l'Hexagone. Et ça, ça peut se faire en une heure ou une heure et demie avec des élèves, avec un schéma en classe. Alors, une chose, je dis une heure et demie, deux heures peut-être, et ça dépend des élèves. Mais, et pas sur la première séance de l'année. Mais en même temps, oui, c'est totalement souhaitable, et dans notre contexte intellectuel et dans notre enseignement. Mais en revanche, je rejoins totalement Franck Collard sur le fait que il faut éviter toute systématisation parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir une seule démarche. Une seule démarche qui pourrait être celle d'une économie globale connectée, aussi intéressante soit-elle. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup, on a parlé de Serge Gosinski et son livre sur les quatre parties du monde de 2004, a modifié beaucoup de choses dans l'impact qu'il a eu, très visiblement. Il a modifié les problématiques, des envies d'enseigner différentes qui existaient, mais il les a cristallisées extrêmement fortement. Est-ce que si on applique ça, peut-être pas à la lettre, mais cette démarche dans tout ce qu'elle sous-entend, est-ce qu'on en a les moyens? Je pense pas. Donc je crois qu'il faut faire attention à cette question des moyens et à cette question de ce qui doit être enseigné à tout prix et de ce qu'on ne peut pas enseigner constamment.
Merci Jean-Marc Fèvre. Laurence Decocq.
Je voudrais m'adresser à Franck Collard et je voudrais lui dire quelque chose que je ne lui ai jamais dit.
Attention, on se connaît depuis si longtemps.
Deux Nanterrois et Nanterroises vont discuter ensemble.
Deux Rémois, au départ c'est deux Rémois.
Je laisse planer le suspense.
Voilà, au départ c'est deux Rémois.
Je ne dirai pas en quelle année je vous ai eu comme enseignant.
Ce serait accablant pour moi.
Et pour moi aussi. Mais en tout cas, je vais vous le dire très sincèrement, ce n'est pas du tout démagogique, je vous le dis très sincèrement, vous m'avez appris à faire de l'histoire l'année où vous avez fait le cours sur l'histoire de l'islam. Vous vous souvenez de cette année-là ?
Oui, oui.
Vous m'avez fait voyager dans l'Arabie pré-islamique. J'avais quasiment jamais fait d'histoire de ma vie pour plein de raisons et j'ai découvert comment est-ce qu'on pouvait penser le pouvoir, les relations entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, les relations entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux, la guerre, À quel point le contexte géographique pouvait aussi expliquer un certain nombre d'itinéraires, de développements, de facteurs sociopolitiques, etc. Je vous dis ça parce que ça peut marcher aussi comme ça avec des enfants, y compris quand ils sont très petits. Et je pense que l'un des intérêts de l'histoire globale, c'est justement de permettre d'aller puiser, ce que vous disiez aussi, Madame Darlia, d'aller puiser dans d'autres espaces des manières de penser des objets, des manières différentes de penser des objets au même moment, dans leur contemporanéité, etc. Et du coup, ça relève de ce dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis, dans l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire le raisonnement historique. Qu'est-ce que c'est que penser en historien? Et ça commence très tôt. On n'a pas parlé encore aujourd'hui, par exemple, du cycle 2. Moi, j'entends souvent, là, l'histoire et la géographie ont disparu du cycle 2, c'est un scandale, etc. Mais en cycle 2, il y a un thème qui s'appelle « questionner le monde ». Alors, bien sûr, on va dire c'est très vaste, c'est vrai que c'est pas une succession de Vercingétorix, Slovis, etc. Mais c'est apprendre à poser des questions. Et moi, je trouve que l'histoire mondiale, ça permet précisément d'apprendre à des enfants à poser des questions. Et des questions très simples d'enfants. Pourquoi c'est comme ça ici et pas comme ça chez moi, par exemple? Ça, c'est une question d'enfant. Et je pense qu'il faudrait qu'on la prenne vraiment à bras le corps. Et peut-être aussi qu'on s'interroge sur quelque chose qui n'a jamais été démontré sur le plan didactique, c'est-à-dire le fait qu'il faudrait commencer par inscrire des enfants dans une histoire nationale, avec des repères très rigides, etc., pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils se sentent successeurs d'eux, et petit à petit ouvrir les échelles. Moi, j'ai envie de dire, faisons le pari inverse. Commençons par du très large, varions les échelles très tôt et après entrons peut-être dans des problématiques plus nationales.
Merci Laurence de Coq. Une question de Bruno Modica, une question de Madame ensuite. Véronique Servat, Bruno Modica et Madame ensuite.
Oui, juste. Donc Véronique Servat, je suis enseignante en collège d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et membre du collectif Aggiornamento. Je voulais prolonger un petit peu. En direction de l'histoire écrite dans les programmes, en direction de l'histoire enseignée dans les classes, les propos que vous avez échangés, parce que je crois que, effectivement, programmer et enseigner l'histoire du monde ou l'histoire à différentes échelles. Je m'excuse, je pense que je vais malmener un petit peu toutes les catégories, mais je vais les rassembler, en fait. Géo-histoire, histoire mondiale, histoire connectée, enfin, toutes celles que vous avez évoquées autour de cette table ronde. Évoquer ces différentes histoires en classe suscite et susceptible d'intéresser beaucoup les enseignants dans leur pratique de classe, d'offrir un enrichissement pédagogique. Et j'y verrai d'ailleurs un double avantage, qui est aussi celui d'améliorer la faisabilité des programmes. Parce que, en fait, le dialogue entre l'histoire et la géographie programmée existe depuis plusieurs années. Dans les années 90, il y avait dans le programme de 3e deux questions qui permettaient de faire dialoguer et histoire et géographie. Une question qui portait sur la guerre froide, le monde depuis 45, et une question qui portait en géographie sur élaboration et organisation du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les programmes de 4e, il y a aussi la possibilité pour les enseignants qui s'en sont très souvent saisis avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, la possibilité de lier les tout premiers chapitres du programme qui portent sur la construction d'un commerce atlantique et sur l'émergence de villes portuaires en Europe avec des questions liées à la mondialisation actuelle et au développement de façades portuaires, par exemple maritimes. L'arrivée du monde en 1500 dans les programmes d'aujourd'hui, je pense, va beaucoup intéresser les enseignants. Et le fait de... Moi, je ne sais pas s'il faut parler de transdisciplinarité ou de... Je pense qu'il faut, se jouer du vocabulaire, mais le dialogue entre les deux disciplines à l'intérieur du programme, dans son écriture, me paraît une solution intéressante.
Merci Véronique Servat. Vous intervenez dans la table ronde suivante. Je vais vous demander tous de poser des questions assez brèves, malheureusement, parce qu'il nous reste, un gros quart d'heure et que plein de questions se posent, etc. Bruno Modica. C'est très bien.
Attends, s'adresse directement à Antonio González, simplement parce que peut-être il ne le sait pas encore, mais une partie...
Il a été, vous avez été son étudiant, non, et il vous a appris, vous a appris les choses. Ah, c'est formidable, tout. C'est extraordinaire.
Pas du tout, mais simplement son prédécesseur, Jean-Christophe Couvaigne, a été, à son corps défendant, l'un des rédacteurs de la proposition de réécriture que nous faisons des programmes pour ce qui concerne la partie histoire ancienne. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit dans son intervention liminaire à propos justement de l'intérêt de l'histoire ancienne et de la place qu'elle doit occuper dans la compréhension pour les plus jeunes du cycle 3 et du cycle 4, donc cycle 3, cycle 4, puisque se fait la transition, l'intérêt de l'histoire ancienne pour comprendre justement cette histoire tunnel, cette histoire spécifique qui est l'histoire de la mondialisation, puisque c'est de cela qu'il s'agit. J'ai envie de juste simplement d'évoquer, parce que je me pose toujours la question de savoir comment je vais expliquer des phénomènes complexes des enfants qui ont le niveau de maturité d'enfants de leur âge. Et vous allez peut-être me corriger, m'infliger peut-être une correction sévère, mais j'ai envie de dire, voilà, finalement ce qui se passe en termes de mondialisation avec les transits d'étain venu des montagnes d'Afghanistan qui rencontre le cuivre qui vient de l'île de Chypre, et puis finalement la rupture de ces canaux de communication, c'est déjà les premières crises dans cette mondialisation de l'espace méditerranéen et proche-oriental. Et puis ensuite, deuxième catastrophe, puisque on s'adresse à des jeunes élèves qui sont aussi nourris de films catastrophes, en tout cas, que l'on me confesse une certaine frustration, 1170, le jour où la civilisation s'est arrêtée, cette arrivée de ces multiples peuples de la mer, depuis que, puisqu'on parlait de nos souvenirs d'étudiants, je vais remonter, je me souviens de ma classe de 6e et de l'arrivée de ces peuples de la mer qui étaient à l'origine de bien des malheurs. Je suis à la fin de ma carrière et je m'interroge toujours sur l'origine des peuples de la mer, et je vais essayer de faire partager, puisque c'est aussi ça la transmission pédagogique, je vais aussi essayer, pour le temps qui me reste, de faire partager ces interrogations à mes élèves à propos justement de cette histoire de la mondialisation en utilisant les outils conceptuels que l'histoire ancienne nous apporte.
Merci Bruno Modica. Une question, madame, c'était qui voulait poser une question? Oui,
Bonjour, je suis Alice Cardozo, je suis la responsable du groupe Histoire Géo au SNES. Donc nous avons mené, je crois qu'on vous en a parlé ce matin, hein, nous sommes en train de mener une enquête auprès de nos collègues.
Absolument.
Je voulais donc juste dire très rapidement que la question qui est proposée du monde en 1500, visiblement, est plébiscitée par nos collègues. Voilà, donc faut quand même savoir que, je ne sais pas si vous avez parlé beaucoup de la vie des enseignants, pour l'instant le retour qu'on a, hein, c'est encore ouvert cette enquête, c'est que les enseignants sont très intéressés par cette question. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'il y avait des choses qui avaient changé dans un milieu qui a ses conservatismes, mais il y a des choses qui ont changé, c'est le mélange de l'histoire et de la géographie. Ça, on remarque sur une 20 ans que nos enquêtes montrent que aujourd'hui les professeurs sont de plus en plus favorables à des objets qui croisent histoire et géographie. Et ça, c'était pas le cas tout à fait il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Je vous remercie beaucoup pour cette remarque. Une question de Bruno Benoît.
Bien, moi je voudrais rassurer les collègues qui ce matin ont beaucoup appris sur l'histoire nationale et qui maintenant sont confrontés à l'histoire mondiale. Moi, je voudrais les rassurer parce qu'on peut travailler l'histoire mondiale à travers une histoire du local. Je prends par exemple une ville que je connais bien, la ville de Lyon.
Ah oui, ça c'est sûr.
La ville de Lyon est une ville qui, dès l'Antiquité, reçoit en effet les pèlerins, disons d'Asie mineure, qui viennent en effet implanter le christianisme en Gaule. C'est une ville qui après va devenir une capitale avec Lugdunum, la capitale des Trois Gaules, puis après va devenir une ville qui va être un peu, qui va connaître par rapport à la mondialisation de l'époque une ville en recul, à partir du moment où le limès se met en place sur la ville de Trèves et Lyon n'est plus en première ligne. Et puis c'est une ville qui va connaître à l'époque, disons, du Moyen-Âge, elle va connaître une période d'oubli. Ça c'est intéressant dans l'histoire, puisque tout à l'heure on parlait des temps forts, des temps faibles et une sorte de chronologie à plusieurs niveaux. Et puis c'est une ville qui explose à partir, je dirais, du 14e et du 15e avec les foires, puis après la soie, puis surtout ce qui est intéressant avec les collègues, c'est dire qui vient dans une ville. On a énormément de voyageurs qui passent, des voyageurs connus, mais on a aussi des gens qui partent de la ville. À Lyon, on a un personnage extraordinaire qui s'appelle Pierre Poivre, qui est un des très grands voyageurs du 18e et qui fait un tour du monde, ce Pierre Poivre, et qui nous fait découvrir, en fin de compte, des espaces inconnus pour les populations locales. Et puis, on a le Major Martin, qui devient un des héros de l'Inde, je dirais, des Maharajas. Et on parle du 19e avec l'industrie lyonnaise, la colonisation, les missionnaires. Et on a une ville qui est véritablement, à partir d'une histoire locale, on peut faire l'histoire mondiale.
Vincent Kep depuis, une remarque de madame, une question de madame, une question de monsieur, puis on arrêtera là, je pense. Vincent Kep depuis, vous voulez réagir?
Le lien entre nous deux, c'est que Pierre Poivre a terminé la réunion. Mais autrement, on parlait d'étiquette tout à l'heure, c'est un nom, hein, c'est ce qu'on appelle de l'histoire glocale, hein, justement l'alliance.
Il
fallait quand même que je le case. Donc, cette alliance des échelles et ce passage du local au global, sur le plan méthodologique, ça a été beaucoup pensé par un sociologue américain qui est Michael Burevoix. C'est des études, ce qu'on appelle des études de cas étendues.
Et alors, et c'est bien.
Oui,
sur ce point, Christian Grattalou, il y a deux questions qui viennent ensuite. Franck Collin.
C'est pas tout à fait sur ce point, ça relève de l'esprit de l'escalier. Mais je m'adresse en particulier aux universitaires ici présents. Parce que il y a un point qu'on n'a pas évoqué sur lequel on a, à mon avis, tous une responsabilité. Il y a un cercle vicieux qui est au fond très confortable, qui consiste à ne pas trop s'ouvrir aux autres et à l'histoire mondiale. Et qui touche à quelque chose qui a été plusieurs fois abordé, qui est la question de la formation. Alors, en effet, je donne un exemple extrêmement simple. Bon, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour dire que la Chine va jouer un rôle extrêmement important dans les années qui viennent, que de toute façon, historiquement, c'est un cinquième de l'humanité au bas mot et énormément d'initiation, d'invention, etc. Bon. Maintenant, quelle est notre ignorance en la matière ? J'ai pendant, ça avait commencé à Reims, donc au moins 20 ans, fait un cours de géographie historique qui s'adressait à des étudiants de dernier semestre de licence, donc les S6, comme on dit, d'histoire, entre autres, de géographie aussi, mais d'histoire. Et il y a une question que je posais tout le temps, c'était de dire Tang, Ming, Han, Song, mettez-les-moi dans l'ordre chronologique.
Je vous réponds pas. Hein,
voilà. je ferai pas une interro écrite, mais
ça fait partie des béances de mon savoir.
C'est un truc énorme.
Savoir.
C'est une ignorance encore plus forte que de mettre Charlemagne après Napoléon, parce que ça concerne beaucoup plus de monde et c'est beaucoup plus important. Or, c'était des gens qui, donc, au terme d'une licence, étaient censés avoir une culture générale d'histoire. Voilà exemple. Alors, le cercle vicieux. Ça consiste à dire, bah oui, mais si je m'adresse à mes collègues, je leur dis, mais enfin, vous n'avez pas honte, hein, ça concernait, vous n'avez pas honte, là. Et ils me disent, ah oui, mais l'histoire chinoise, on peut pas parce qu'on n'a pas d'enseignant d'histoire chinoise. Oui, mais créer un poste d'histoire chinoise. Alors, sous-entendu, ça va piquer des postes d'histoire antique, médiévale, bon. L'argument qu'on me donnait, c'était, oui, mais un poste d'histoire chinoise, quand même, ça sera marginal parce que ça n'est pas au CAPES. Ça tombera pas au CAPES. Voilà, Greg. Ah bon? Alors, au fait, pourquoi ça tombe pas au CAPES et la Grèce? Parce qu'on peut pas le préparer, puisqu'il n'y a pas de professeur. voilà.
C'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Oui.
Mais bon, d'ailleurs, c'est pas un problème. Ça fait 30 ans que j'entends ce genre de choses. Alors, voilà, typiquement une responsabilité, parce qu'on contribue à définir des profils de poste, des programmes de recherche, etc.
Franck Collard, brièvement, questions qui viennent de la salle.
Tout à fait raison, mais je pense qu'on peut changer les choses aussi au niveau des programmes des concours, on sait très bien qu'on apprend en enseignant. Laurence de Coq parlait tout à l'heure de ses beaux souvenirs. Elle s'est pas rendue compte qu'au moment où j'ai enseigné l'islam, j'avais des béances énormes dans ce domaine-là, et que j'avais très peu d'avance sur les étudiants auxquels j'enseignais, c'est l'histoire musulmane.
C'était donc, une sorte de course de fond terrible.
Donc, je voulais simplement ajouter, comme en forme de conclusion pour ce qui me concerne, que cette histoire-monde a toute sa légitimité intellectuel, parce que l'histoire, c'est une expérience d'altérité. Je pense que l'altérité, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans le monde où on vit, où chacun n'est renvoyé qu'à ses origines, à ses goûts, à ses musiques favorites. Il faut avoir une expérience d'altérité. Ça, c'est la première chose. Il y a une légitimité sociale aussi, je crois. Il ne faut pas que ça tourne au communautarisme, mais c'est vrai que la diversité des populations scolaires rend tout à fait légitime qu'on s'intéresse à d'autres espaces qu'à l'Europe ou à la France. Simplement, en évitant de transformer l'ex-roman national en une sorte de roman mondial qui dans le temps était la success story occidentale avec la colonisation et qui serait maintenant une sorte de roman noir. Enfin, dernière chose, pour en revenir, alors on a une vision peut-être un peu irénique des relations, j'y reviens, je suis désolé, entre l'histoire et la géographie. Pour que nous marchions du même pas, il faut aussi que dans les universités, quand nous préparons les concours, eh bien, nos collègues géographes présentent, comment dire, une meilleure volonté qu'ils ne le font jusqu'à maintenant.
Ils n'ont aucune raison de le faire.
Pour participer.
Et pourquoi le ferait-il?
Mais pourquoi le ferait-il? Simplement parce que le CAPES est d'histoire et de géographie et qu'il faut bien former les étudiants en géographie.
Mais pas du tout. Les universités demandent de justifier nos postes, nos programmes, d'avoir des étudiants et de la rentabilité en la matière. Si on nous confie une mission, il faut la financer. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'avais été convoqué par l'inspection générale pour justifier, pour essayer de comprendre pourquoi les géographes ne s'intéressaient plus au CAPES. La réponse, c'est qu'ils ne forment pas des étudiants qui vont devenir enseignants. Alors pourquoi diable? Et puis ils ne connaissent plus rien. Pourquoi diable? Mais dans ce cas-là, vous allez dire, il faut qu'il y ait des enseignants qui forment les futurs enseignants, c'est-à-dire les historiens, à la géographie. Dans ce cas-là, créer des postes, soit, si vous voulez qu'on réfléchisse à la géographie de l'enseignement, créer des programmes de recherche. Merci. Aujourd'hui, c'est l'ANR, ça signifie mettez 200 000 euros sur l'affaire et vous aurez des réponses.
Depuis très brièvement, parce qu'il y a deux questions qui veulent poser depuis 5 minutes.
Juste un mot pour tordre le cou à un argument quand même qui m'agace un peu. je vais faire mon géographe reclusien. L'idée d'ouvrir au monde et de faire de l'histoire, entre autres mondiale, c'est pas... Parce que dans nos classes, il y aurait des élèves d'origine étrangère. Tous nos élèves sont citoyens du monde.
C'est parce que c'est intéressant aussi.
C'est ce que j'ai dit en premier.
Oui, c'est ça. Madame, monsieur, très brièvement.
Bonjour, donc Émilie Cocher du SENSA. J'ai beaucoup entendu parler de montrer aux élèves. Or, l'une des particularités de ces programmes, c'est qu'ils s'appuient sur un socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui insiste sur la fameuse notion de compétence qui permettrait de développer le fait qu'on ne montre pas aux élèves. Montrer ne permet pas d'enseigner aux élèves. Les enfants ne sont pas des espèces d'ordinateurs auxquels on insère une clé USB et qui peuvent immédiatement comprendre tout ce qu'on leur montre. J'aurais aimé entendre un petit peu plus parler de comment faire enseigner cette histoire globale.
On va parler du comment peut-être aussi dans la troisième table ronde et je retiens votre question. Madame, monsieur.
Donc Jean-Christophe Essette du SNFOLC, donc professeur en lycée. Nous avons entendu le discours sur les fenêtres à ouvrir, sur ce vent frais qui doit circuler et qui permet de décloisonner. Il faut cependant garder à l'esprit que pour ces élèves, ces cloisons n'existent souvent pas. Elles doivent être construites, ce sont des repères, des cadres qui sont précieux pour eux, qui sont indispensables et qu'il peut être aussi exaltant d'enseigner pour ses élèves. Avant ensuite, bien entendu, de les dépasser ou les nuancer. Mais vouloir instaurer une transdisciplinarité ou une interdisciplinarité de manière trop rapide, sans que les bases soient construites, peut conduire à une confusion assez regrettable. Et cette remarque rejoint un petit peu les inquiétudes que les collègues peuvent avoir à l'égard des EPI, qui d'abord prennent des heures aux enseignements
pluridisciplinaires.
Et puis également par rapport au socle, puisque le nouveau socle commun et ces domaines de compétences ne sont plus adossés à des disciplines, comme c'était le cas pour le socle de 2005 ou de 2006. Or, d'ailleurs, interdisciplinarité qui a été fortement recommandée par la Cour des comptes, non pas pour des raisons pédagogiques, mais pour des raisons de commodité économique. Ça permet de faciliter la gestion des enseignants. Or, pour les enseignants, leur légitimité, celle des professeurs, repose sur la maîtrise d'une discipline. Avec le risque de dilution des disciplines, on a l'impression que la nature de l'enseignement est en cause et que ça conduit à un certain abattardissement de l'enseignement vers une moralisation qui a été dénoncée ce matin, à juste titre, à une époque, et je vais bientôt en terminer, où justement le métier est en train d'être profondément remanié, avec des obligations réglementaires de service des professeurs qui ont été profondément modifiée pour intégrer quantité de choses qui ne sont pas de l'enseignement, et avec une liberté pédagogique qui est fortement menacée, puisqu'elle ne s'exercera plus de manière individuelle, mais de manière collective, sous la direction et le contrôle de coordonnateurs désignés par les chefs d'établissement. Donc, il y a des inquiétudes qui sont réelles.
Merci, monsieur. Une dernière remarque, mais vraiment très brève. Monsieur m'a fait les yeux doux pour que je lui donne le micro, mais normalement, j'aurais dû ne pas vous le donner. Allez-y.
Merci beaucoup. Frédéric Sévenot, donc j'appartiens à la délégation des Clionautes. Alors, c'était pas une question, mais c'est une offre de service, simplement, et je rebondis sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la géohistoire. Il se trouve qu'on a réfléchi à une refonte, enfin, en réalité, les programmes d'histoire et de géographie de collège, et on va les diffuser.
Carrément.
Oui, voilà. Et fort de cette expérience, je pense qu'on peut même aller jusqu'à écrire des programmes de géohistoire, quel que soit le niveau, peut-être pas collège, peut-être pas lycée, je ne sais rien du tout, mais en tout cas on est prêt à le faire. Wow. Et je crois qu'il y a de bonnes volontés qui sont exprimées parmi vous.
Merci. Voilà. Vincent Cap depuis.
Nous, moi j'ai déjà fait des propositions il y a 2 ans, voilà, c'est sur le site d'Aggiornamento.
Merci à toutes et merci à tous, on se donne 10 minutes au maximum et couchette chaude comme dans les sous-marins, on se remet au travail pour la dernière table ronde. Merci encore.